Donc le psaume 23, nous allons, dimanche dernier, nous avons déjà parlé de ce psaume, nous l'avons lu, et nous avons traité cette première partie, un petit peu, l'Éternel est mon berger. Nous allons construire dessus et continuer. Donc là, je vous donne le temps de trouver le psaume 23, et puis je vais lire ce psaume. Et donc... C'est les psaumes, c'est un recueil de cantiques, une grande partie composée par David, mais aussi par d'autres. Et ce psaume 23 est là, et le thème de ce psaume, il est évident, hein, c'est « L'Éternel est mon berger ». Et la semaine dernière, nous avons souligné le fait que... Jésus-Christ, lui aussi, est le bon berger dans Jean chapitre 10, et Jésus nous l'a présenté de cette manière-là. Donc, il a tout fait pour être notre berger, et il veut que nous soyons, et il veut être notre berger. Et pour cela, eh bien, il a donné sa vie, même sur la croix, pour pouvoir être notre berger. Et il nous dit dans 1 Jean 2, verset 2, il nous dit... Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc il a vraiment payé le prix pour que tous, afin que n'importe qui, quiconque croit, puisse avoir le pardon des péchés. Et ça, c'est afin de pouvoir être notre berger. Donc psaume 23, je commence à lire, donc c'est un cantique de David. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Veuillez noter en passant qu'une brebis ne peut pas avoir deux bergers. C'est tellement évident, mais combien de gens... dans leur vie, semblent être conduits par différentes réalités. Nous, avant de connaître Christ, nous n'avions pas des bergers, nous avions des mercenaires, hein, des gens qui, tant que tout allait bien, eh ben, ça allait bien. Et quand on a commencé à avoir des pépins, ben, tout d'un coup, ils disparaissent, ils ne sont plus là. Hein, c'est ce que disait Jésus concernant les mercenaires. Il dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger, et à qui ils n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne sait point, se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Il dit, il y a une différence. Entre ce que nous avions, c'était des mercenaires, ils étaient là, ils étaient... tant que tout allait bien... Ils étaient là, mais quand ça allait mal, ben, il n'y avait plus rien. Et on s'est retrouvé seul, tandis que Jésus est toujours là. Et donc, nous ne pouvons avoir qu'un seul berger dans notre vie. Même Jésus dira, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc on ne peut pas avoir deux, courir après deux, pour prendre quelque chose qui est parlant aux jeunes, hein, on ne peut pas courir après deux ballons en même temps. Ou un chasseur ne peut pas être derrière deux lièvres en même temps. Et on ne peut pas... Il faut choisir, il faut faire un choix, et puis après on suit. Je me rappelle, on dit un bon chien de chasse, c'est celui qui prend l'odeur d'un gibier et le suit jusqu'au bout. Et même s'il croise un autre gibier, il ne se laisse pas distraire et continue jusqu'au bout. Ça, c'est un bon chien de chasse. Eh bien, nous soyons aussi des bons chiens de chasse. Hein, on a un seul berger et on va jusqu'au bout. Les autres voix n'ont aucun effet sur les brebis du Seigneur, car elles connaissent sa voix, il nous dit. Dans Jean 10, elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Il faut tellement bien connaître la parole de Dieu pour que même si quelqu'un d'autre nous parle, non, ça c'est pas dans la Bible, ça ne m'intéresse pas. Je reconnais que ça c'est autre chose. Il faut bien connaître la voix de Dieu, bien connaître la pensée de Dieu, et pour ne pas être emporté. De nos jours, il y a tellement d'ignorance de la parole de Dieu qu'on a toutes sortes de sectes, il suffit d'inventer quelque chose et il y a du monde qui suit. Et peu importe, hein, vous pouvez inventer n'importe quoi et vous allez trouver du monde qui est prêt à suivre. Il suffit que vous dites que ça vient de la Bible. Mais celui qui est étudiant de la Bible, qui l'étudie, qu'on comprend, il dit non, c'est pas ce que Dieu t'a dit. Et il faut connaître la voix du berger. Les brebis qui suivent connaissent la voix du berger. David a bien dit, l'Éternel est mon berger et non un de mes bergers ou c'est mon berger actuel. Hein. Aujourd'hui, c'est mon berger. Demain, bon, je ne sais pas ce que je vais faire. Non, on prend un berger et on le garde. Et il dit l'Éternel est mon berger. Il ne dit pas l'Éternel sera mon berger. Il est mon berger. Le présent d'indicatif veut dire que c'est une chose qui est continuelle, qui reste vraie. Hein, donc, d'où l'idée de permanence, de continuité. L'Éternel est mon berger. Ça reste comme ça. Ce sera. Et avec l'aide de Dieu, ce sera toujours comme cela. Hein. Puis remarquez aussi, je veux dire en passant, c'est que. Je ne fais pas de l'humour, mais. Le psaume 23, il suit le psaume 22. Et vous connaissez le thème du psaume 22, c'est le Christ crucifié, le psaume 22. Il commence, le début du psaume 22, c'est « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ensuite, il y a le psaume 23. C'est parce que, à moins d'avoir rencontré le Christ crucifié, eh bien, on ne peut pas avoir le Christ bon berger. Hein. Il faut d'abord être, c'est en venant à la croix, en plaçant notre foi en lui en disant « Je reconnais que tu es mort pour mon péché. » Et c'est à ce moment-là que l'expression qu'on emploie, c'est que Jésus a employé, c'est la nouvelle naissance. Et à ce moment-là, quand je nais de nouveau, je deviens brebis du Seigneur. Et une fois que je suis brebis du Seigneur, eh bien, il est mon berger. Et on peut pas, bien, même si ce psaume, ça fait du bien à quiconque on le lit, hein, moi je l'ai même lu à des incroyants, j'ai lu à des musulmans, j'ai lu à toutes sortes de personnes, et il dit, ça fait du bien rien que de l'entendre. Bah, c'est d'accord, ça fait du bien, mais oui, puis voir un bouquet de fleurs, ça fait du bien aussi, puis avoir un joli panorama ou une vue sur la mer, ça fait du bien aussi. Mais ça ne change rien dans la vie. Mais si on veut vraiment le changement dans la vie, c'est alors qu'il faut d'abord rencontrer le Christ crucifié, comprendre qu'il a été crucifié, c'est pour moi. Et ensuite, là, il est prêt à être mon berger. Et puis alors, je lis ce psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il renforce cette idée de berger. Normalement, si on dit que c'est un berger, et on pense que c'est un bon berger, on n'a pas besoin d'ajouter « je ne manquerai de rien ». Un bon berger pourvoit, ça va de soi, mais... Là, David, il veut renforcer la chose. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus disait, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et je donne ma vie pour mes brebis. C'est-à-dire, je suis prêt à tous les sacrifices dans leur intérêt. Hein? Elles ne manqueront de rien, je suis prêt à tout faire. Et en fait, la suite du psaume, donc à partir du verset 2, il va nous décrire tout ce que cela veut dire, hein, de ne manquer de rien. Et là, il va parler de ce que cela représente pour nous, ce que, s'il met en valeur ce concept, je ne manquerai de rien, et tous les différents aspects auxquels il va apporter. Et au fur et à mesure des semaines, eh bien, nous allons étudier ces versets. Mais on va s'arrêter sur cette partie-là, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne manquerai de rien? Et la première chose qu'on a envie de dire avec le sourire, on dit, ça veut dire qu'on manquera de rien. Mais bon, quand vous ne savez pas ce que veut dire un mot, essayez de vous dire, mais qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Et ça ne veut pas dire que les brebis auront une telle abondance qu'elles n'auront jamais le sentiment de manquer de quoi que ce soit. Est-ce que ça veut dire cela? Il y en a tellement. Ou est-ce que ça veut dire qu'elles auront tout ce qu'elles demandent? Est-ce que ça veut dire qu'elles manqueraient de rien? C'est ça que ça veut dire, vos enfants, quand vous les avez élevés, ils disent, moi, je veux que mes enfants ne manquent de rien. Ça veut dire que je leur donne une grande pièce remplie de jouets, remplie de bonbons, remplie de glace, remplie de tout ça. Et puis tous les jours, je les emmène chez McDo. C'est ça, ne manquer de rien? Ça, on dit, ça, c'est quelqu'un qui gâte ses enfants, qui les pourrit. C'est ça qu'on dirait. Dire qu'ils auront tout ce qu'ils demandent, vous dites, non, c'est pas comme ça. Si on veut bien élever nos enfants, c'est pas leur donner tout ce qu'ils demandent, parce que ça, c'est les pourrir. Pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent comme ça. Ils croient que Dieu, Dieu, si tu es berger, tu veux prendre soin de moi, alors donne-moi tout ce que je veux. Et puis se fâche quand Dieu ne donne pas. Il dit, je ne te parle plus. Voilà. Je ne vais plus à l'église, je ne te parle plus, je ferme la Bible, et puis voilà. Voilà, tu ne m'as pas. Et ce n'est pas la réaction. Ce n'est pas celle qu'il faut avoir. En fait, pour vraiment comprendre ce mot, je ne manquerai de rien, en fait, je ne manquerai de rien, c'est un seul mot, dans l'hébreu, parce que c'est l'Ancien Testament. Et donc, j'ai essayé d'aller voir où c'était utilisé. Et j'ai trouvé que ce verset se trouve dans Exode chapitre 16, verset 18, en parlant de la manne que Dieu a pourvue. Il dit que quand la manne, tous les matins, les enfants d'Israël dans le désert, ils pouvaient sortir et trouver cette manne et ils ramassaient. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'il disait que celui qui ramasse beaucoup ou celui qui en ramassait moins, mais chacun avait ce qu'il lui fallait pour la journée. C'était, finalement, la quantité n'avait rien à faire. Parce que pour Dieu, ce n'était pas combien il pouvait donner, c'est le fait que tu en aies assez pour la journée. Et c'est étonnant comment il dit, on mesurait ensuite avec l'omer. Donc c'est la mesure qu'ils utilisaient pour ramasser. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas, c'est ça le mot, n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. C'est ça le concept de ne manquer de rien, c'est que peu importe combien j'en ai assez. Et puis alors... Après, j'ai trouvé le mot aussi lorsque Moïse a voulu résumer la provision de Dieu dans le désert. Donc, en Deutéronome chapitre 2, verset 7, il dit « Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a reconnu ta marche dans ce grand désert. Et voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. » C'est ça qu'il dit, Dieu dit, tu n'as manqué de rien. Je regarde tes 40 années et pour moi, tu n'as manqué de rien. Vous allez dire, est-ce que cela veut dire qu'ils se sont jamais plaints? Si, ils se sont plaints. Est-ce qu'ils ont murmuré? Bien sûr qu'ils se sont murmurés. Est-ce qu'ils ont désiré autre chose? Bien sûr, il y a un temps, ils disent, ça nous manque les melons qui sont en Égypte, et puis les poissons, et puis la viande. Et oui, ils sont plaints. Ils se sont plaints. Est-ce que cela veut dire que l'Éternel ne les a jamais châtiés? Pour le comprendre? Si. Mais la question, c'est, à toutes ces questions, on peut répondre oui. Oui, ils se sont plaints, ils pensaient qu'ils n'avaient pas assez, ils voulaient autre chose. Mais Dieu termine, et il résume les 40 ans, il dit, ils n'ont manqué de rien. Hein, c'est comme ça, et c'est important pour nous de voir les choses telles que Dieu les voit. Et Dieu regarde sur les 40 ans et dit, vous n'avez manqué de rien. Et nous, parfois, on réagit sur l'heure, on réagit sur le jour, ou le mois, parfois, il y a des mois difficiles. Et on leur dit, ouais. Mais Dieu regarde sur la période et dit, mais quand tu fais le total à la fin, hein, tout ce temps que tu as marché avec moi, est-ce que tu as manqué de quelque chose? Bien sûr qu'il y a, il y a eu des moments d'épreuve, il y a eu des moments difficiles, mais Dieu se servait de tout cela pour m'apprendre des choses, pour voir, pour me faire à monter à un autre stade dans ma vie spirituelle. Dieu s'est servi de ces choses. Bon, sur le coup, moi, je le prenais mal. Et ça, il comprend ça aussi. Hein. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Mais il dit, mais quand c'était tout terminé, qu'est-ce que tu penses? Alors, on est obligé de dire, après un certain nombre d'années avec le Seigneur, on dit, oui, mais je n'ai manqué de rien. Il a pris soin de moi. Alors que si je sens l'Éternel, alors là, je peux dire, ah ouais, j'ai eu des périodes difficiles. Dans ma vie, il y a eu des saisons, il y a des hivers, il y a des automnes. Oh, il n'y a eu que petit printemps, mais... Et même tout ce qu'on appelle dans le monde de nos jours, hein, ce qu'ils appellent les printemps, ça ne se passe pas toujours bien. Alors, David lui-même emploie ce même mot dans le psaume 34, verset 10. Il dit, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Et « ne sont privés », c'est le même mot là, « ne manqueront de rien ». On veut comprendre comment Dieu comprend la chose et pour ne pas être déçu, hein, c'est important. Parce que si nous on a une idée autre que la sienne, ça veut dire qu'on ne va pas se comprendre. Hein. Même chez les humains, lorsque quelqu'un pense à un mot qui a ce sens et l'autre il a un autre sens, et des fois ça crée des problèmes et des tensions, même dans le couple, hein, quand on ne voit pas les choses exactement de la même manière. Alors c'est important pour nous de comprendre comment Dieu voit les choses. Et Dieu dit, à la fin, quand on fait le total de tout ce que cette marche ensemble, eh bien, tu ne manqueras de rien. Il y a une autre chose qu'il faut remarquer dans ce concept, tu ne manqueras de rien, c'est qu'il ne faut pas confondre quantité et contentement. Hein? Quantité et contentement. Vous savez, ce ne sont pas ceux qui ont le plus qui vivent dans le contentement. Et parfois même, c'est le contraire. Hein? Celui qui a plus, il veut toujours plus. Et puis après, il y a d'autres, mais ils sont dans leur petite situation, et puis ils ont une soupe à l'oignon, et puis ils disent, ah, ben, on a bien mangé ce soir, je suis bien. Et ils dorment mieux que celui qui avait autre chose. Hein? C'est pas la quantité, c'est pas ça. C'est, hein? Donc, il dit... Et puis, le degré de contentement dépend beaucoup de la relation entre le berger et la brebis. Hein, c'est plus la relation qui apporte le contentement et pas la quantité de la provision. Hein, et pas la provision elle-même qui apporte le contentement, c'est la relation. Hein, et combien de fois nous-mêmes, hein, on préfère... j'ai pas besoin d'une belle maison avec piscine, avec tout ça. Tout ce que je veux, c'est que tu passes du temps avec moi, dira l'épouse. Hein, c'est je veux la relation. Un enfant, il peut dire, papa, je sais, tu travailles partout, tu fais, c'est pour nous offrir, payer les études, tout ça, mais toi, je te vois jamais. Hein? C'est ça le contentement. Et la relation, bien sûr, c'est deux personnes. Mais bon, dans notre cas, quand on a affaire avec Dieu, le côté faible de la relation, c'est toujours nous, hein, parce que Dieu est fidèle. Nous avons un Dieu fidèle qui garde ses promesses. Donc le point faible, c'est toujours de notre côté. Et il faut l'admettre. Et c'est... Bon, dans le cas d'un mariage, bon, les deux côtés sont faibles. Hein, donc après, là, il faut les travailler. Mais dans le cas avec Dieu, c'est nous qui sommes le point faible, le maillon faible de la chose. Mais vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on a souligné tout à l'heure aussi, c'est que l'Éternel, eh bien, il a déjà démontré son amour pour nous. Hein. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans le psaume 53, il nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Nous étions, c'est pas lorsqu'on était près de lui que Christ est mort pour nous. C'est lorsque nous étions errants qu'il est mort pour nous. Alors combien plus lorsque nous nous approchons, nous venons vers lui, combien plus il va nous recevoir. Si déjà il nous a aimés au point de se sacrifier son fils lorsque nous étions errants, alors c'est ce qui nous rassure, c'est que lui, son côté est fort. C'est à nous de venir. Et dans cette situation de contentement, eh bien, vous savez que le fondement du contentement, ce sera la reconnaissance. C'est le fait, le contentement, c'est lorsque je m'arrête et je dis « Ah, merci hein ». Et c'est là que vient le contentement. Tant que je ne dis pas « merci », tant que je ne reconnais pas que quelqu'un a fait quelque chose pour moi, eh bien, il n'y aura pas de contentement. Hein, c'est toujours dire ah, « je veux plus, donne-moi plus, donne-moi plus ». C'est pour ça qu'on se plaint tout le temps avec l'État, parce qu'on veut toujours plus et on ne dit jamais merci. Ça n'existe pas une manifestation où les gens manifestent dans les rues de Paris pour dire « nous voulons exprimer notre reconnaissance à l'État pour tout ce qu'il fait pour nous ». J'ai jamais entendu ça. Ouais, le premier à ne pas le croire, ce sera le président. Il va dire « mais ça c'est un truc nouveau ça, qu'est-ce qu'il y a derrière là ?» Il ne va pas nous croire tellement c'est étonnant. Mais c'est pour ça qu'on est jamais content aussi. Mais si on veut du contentement, eh bien il faut s'arrêter et dire, mais ça c'est Dieu qui l'a pourvu. Ça c'est un tel. Mais maman, c'est maintenant que je prends conscience de tout ce que tu as fait pour moi. Je veux te dire merci. Et puis ça change toute ta relation. Hein, donc la base du contentement, c'est la reconnaissance. Et là où il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas d'action de grâce, ben, il n'y aura pas de contentement. On ne peut pas être heureux. Et avec Dieu, on ne peut pas avoir ce contentement si on ne reconnaît pas ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a pourvu pour nous. Paul a partagé avec Timothée, son disciple, ce jeune homme, et à un moment où il était découragé et dans son épître. Et donc, il lui dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est ça que Paul dit à Timothée. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. 1 Timothée 6, verset 6. Parce que c'est quelque chose que Paul avait appris. Hein. Lui, il en parle. Il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Philippiens 4, 11. Il a dit, j'ai appris. Ce n'est pas venu tout seul. Et ça ne vient pas tout seul. C'est quelque chose où on s'arrête et on se parle. Et on se dit, mais écoute, Steve, ça, où est-ce que tu aurais été si un tel n'était pas intervenu? Où est-ce que tu serais si... Et ça, tu crois que c'est vraiment tout seul, tu as pu faire ça? Non. Eh bien, il faut que je remercie ceux qui sont intervenus. Et c'est là où je vais commencer à dire, mais oui, il y a quand même des gens gentils dans ce monde qui m'ont aidé, et ceci. Et ça change tout notre comportement. Et de dire merci à Dieu aussi. Et Paul dit, j'ai appris, quand il était pharisien, c'était la lettre de la loi, il était violent, il était tout cela. Il n'avait pas le contentement, et il était peut-être content de lui, parce qu'il pouvait être, par rapport à la loi, irréprochable, mais n'était pas heureux. Mais il a dit, mais après j'ai commencé à voir ce que Dieu a fait pour moi, et là, j'ai appris le contentement, et là, je peux être content, quel que soit mon état, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je suis content parce que je pense à ce que, il y a cette relation avec Dieu, et il y a cette action de grâce, cette attitude de remerciement qui existe entre nous. Et donc Paul dit à Timothée, il dit, il y a une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et dans notre psaume là, piété, c'est l'Éternel est mon berger, contentement, je ne manquerai de rien. C'est une grande source de gain quand j'arrive à rapprocher ces deux pensées. Dieu, et puis ça, il prend soin de moi. Et je suis reconnaissant pour cela. Et quand il rassemble ces deux choses, c'est une grande source de gain. Ça donne un autre sens à la vie. La provision est là pour celui qui a l'Éternel pour berger. Philippiens 4, verset 19, hein, l'apôtre Paul dira dans ce même passage, il dira « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il dit, comprenez. Et dans le même passage, Philippiens 4, 6, il dira « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Avec des actions de grâce. Hein. Avant même de recevoir, on dit déjà merci. Et dit, et là, Dieu pourvoit. De pouvoir dire de tout son cœur, avec foi, l'Éternel est mon berger, c'est ça la piété. Je ne manquerai de rien, c'est là le contentement. C'est une grâce de Dieu. Hein, c'est ça qui nous... et c'est ça, et c'est pour ça que ce psaume, finalement, il rassemble des vérités fondamentales pour que l'homme puisse être heureux. Le psalmiste, il exprime cette pensée d'une manière... où on a ce sentiment de cause à effet. L'Éternel est mon berger, c'est la cause. Je ne manque de rien, c'est l'effet. Hein, c'est une situation de cause à effet. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si la première est vraie, la seconde sera vraie. Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, il dira en Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » D'abord, faites de l'Éternel votre berger, et ensuite, vous ne manquerez de rien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, et lorsque nous lisons le contexte du Matthieu 6, eh bien, il dit, le manger, le boire, l'habit, eh bien, toutes ces choses vous seront données en plus. Hein, c'est une question de cause à effet, c'est de priorité, c'est de mettre les choses dans l'ordre. Je dis tout ça, puis il y a quelqu'un qui va peut-être dire dans sa tête, il a dit, mais si c'est vrai, et que je me rends compte que je ne suis pas content dans mon cœur, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas un berger, que l'Éternel n'est pas mon berger? Si je n'ai pas le contentement, je ne peux pas dire que je ne manque de rien. Si je ne peux pas le dire, est-ce que ça veut dire que l'Éternel n'est pas mon berger? Hein, si c'est une question de cause à effet, quelqu'un va se poser la question. Eh bien, je vais dire que ce n'est pas forcément vrai. Hein, parce qu'il se peut que l'Éternel soit notre berger, mais qu'on ne le suit pas. Et lorsque je ne le suis pas, alors ma vie prend des allures de brebis sans berger. Hein? Je vous rappelle la parabole de Luc 15. Le berger est le berger des 100 brebis. 99 sont dans la bergerie. Il y en a une qui est ailleurs. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas le berger de cette brebis? Mais si! Il est la brebis. Justement, c'est pour cela, c'est parce qu'il est le berger qu'il va chercher cette brebis. Il laisse les 99, il va la chercher. La raison pour laquelle elle ne se trouve pas avec les 99, la raison pour laquelle elle se trouve un peu perdue, la raison pour laquelle, de toute apparence extérieure, on dirait qu'elle est sans berger, c'est parce que quelque part, elle n'a pas suivi. Et puis alors, elle était distraite par autre chose. Et puis finalement, après, elle a perdu de vue le berger. Elle ne sait plus où elle était. Et elle s'est perdue. Mais dans l'esprit du berger, ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus la brebis. Hein, ce n'est pas parce qu'elle n'est elle est distraite. Dans l'esprit, hein, dans la parabole de Luc 15, le berger, pour lui, elle est toujours sa brebis. Hein. Et c'est une pensée qui nous rassure, parce qu'il nous arrive des fois dans notre marche avec Dieu, on a commencé tout ça, et puis après, bon, pour une raison, peu importe, hein, qu'elle soit justifiée ou pas, c'est pas important. Mais la question c'est, si j'étais une brebis, je suis toujours une brebis. Même si les allures sont que je suis sans berger. Mais si j'ai été brebis, je suis toujours brebis. Et pour lui, dans son esprit, je suis toujours sa brebis et il me cherche. Et c'est pour ça que je ressens tous les temps en temps, il y a quelque chose en moi qui m'attire, qui me donne cet désir de retourner, de me dire, aïe, je me souviens, il y avait des périodes où... Mais c'est parce que le berger, lui, considère que je suis toujours sa brebis. Parce qu'il est un bon berger. Et donc, il va la chercher. Il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et le berger ne l'a jamais oublié, même si de toute apparence extérieure, eh bien, elle semble être une brebis sans berger et loin du troupeau. Donc, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il m'arrive de ne pas suivre et puis de m'égarer de tout cela, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus mon berger. Mais il pense à moi, il va m'attirer vers lui, mes pensées reviennent à lui, et c'est parce qu'il est mon berger. Et il me cherche. Et il suffit que je m'adresse à lui, il me reprend. Hein, et cette brebis dans le psaume, dans le Luc 15, eh bien, quand il a trouvé la brebis, eh bien, il n'a pas donné des coups de pied jusqu'à ce qu'à la maison, hein. Et des coups de bâton jusqu'à... Il dit, voilà, ça t'apprendra la prochaine fois. Et puis encore. Et puis la prochaine fois, je te laisserai dehors. Non, c'est pas comme ça. Parce que c'est un bon berger. Il a dit, il l'a prise, il l'a mis sur ses épaules. Et il l'a portée. Les autres n'ont jamais... Toutes les 99 n'ont pas été portées. Mais celle-là, il l'a portée. Parce que c'est sa brebis. C'est ça le berger dans l'esprit de la Bible. Trouver ça dans aucune religion, mais dans l'Évangile, c'est ça le berger, et c'est ça qui m'attire vers l'Évangile. C'est ça ce que je désire. Avec un berger pareil, je suis prêt à être une brebis. Jésus pose la question à ses disciples parce qu'il les avait envoyés, comme on disait tout à l'heure, deux par deux. Il dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Il a dit, il les a envoyés comme ça. Il dit, et est-ce que j'ai pourvu à vos besoins? Oui. Quand l'Éternel, le bon berger, conduit, nous manquerons de rien. Faisons-lui confiance pour le suivre. Jésus dit dans Jean 10, 27, il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Vous savez ce que ça veut dire, je les connais? C'est pas je sais qu'elles existent. Non, je les connais. Hein, un berger, si vous écoutez un berger, il dit, cette brebis-là, ouais, elle est un peu têtue, celle-là. Celle-là, elle est toujours près de moi. Elle est tout le temps, elle est en train de... Il dit, celle-là, qu'est-ce qu'elle m'a fait avoir des problèmes, tout le temps en train de la chercher. Mais ce sont mes brebis. Hein. Je connais les défauts de mes brebis, c'est celle qui a l'oreille coupée, c'est celle qui a eu une patte cassée. Je connais mes brebis. Hein. C'est comme ça que parle un berger. Même si vous en trouvez un maintenant, vous allez le voir, et puis son troupeau, et puis il peut vous raconter une histoire sur chaque brebis. Les conditions de sa naissance jusqu'à toute sa vie. Il dit, je connais mes brebis. Et elles me suivent. Et là, après, dans Jean 10, Jésus nous dit, finalement, ce que je veux voir, c'est qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger.
Et c'est ça que Dieu, c'est ça l'objectif de Jésus. C'est un troupeau. Toutes ces brebis, il dit un peu avant, il a dit, j'ai d'autres brebis et je dois aller les chercher afin d'avoir un seul troupeau. Et donc notre berger, Jésus-Christ, c'est un qui il va chercher toutes ses brebis, comme il a fait après sa résurrection. Ah, les disciples, ils étaient de partout, dispersés de partout, ils ne savaient plus où. Et il a été, pendant 40 jours, il a été les rassembler. Et au moment de sa ascension, ben, il y en avait 500. Tandis qu'à la croix, il n'y avait, avait personne. Et à sa résurrection, il y avait quelques femmes. Heureusement pour elles, et pour heureusement qu'elles étaient là. Hein, sinon, jamais, personne n'aurait su qu'il était ressuscité. Heureusement, il y a toujours ces femmes, on doit les apprécier. Mais Jésus, et après, il a été rassemblé toutes ses brebis, ses disciples. Et 500 étaient présents quand il est ressuscité, quand il est monté au ciel. Et c'est ce désir-là encore aujourd'hui. Et donc, c'est à chacun de nous de voir et de dire, mais où est-ce que je me place par rapport à tout cela? Est-ce que je n'ai qu'un seul berger? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je comprends que c'est une question de tout? Et quand on rassemble le tout, je n'ai manqué de rien. Est-ce que c'est une question de... Oui, je me suis écarté, mais est-ce que c'est pour ça qu'il n'est plus mon berger? Absolument pas. Celui qui a été sa brebis est toujours sa brebis. Même si elle est égarée dans le désert, c'est sa brebis. Et il n'a qu'un seul désir, c'est de la retrouver et de la voir près de lui. Et donc, avec ces pensées-là, nous voulons nous arrêter, prendre quelques moments de silence et que chacun s'exprime dans son cœur à Dieu et dit « Dieu, voilà où je me situe, voilà mon besoin et voilà ce que j'aimerais faire et voir. » Et sachez qu'on a affaire avec un berger qui est là pour qui ne demande que de nous recevoir. Et s'il doit nous porter sur son épaule, il le fera. Hein? Alors prenons quelques moments de silence et après quoi je prierai.